Et ce lundi est un jour crucial puisque Donald Trump rencontre Benjamin Netanyahu pour lui faire accepter son plan de paix en 21 points. Daniel Habert, notre géopolitologue maison, comme chaque semaine, donne et nous livre son analyse au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour très chers amis.
Merci d'être avec nous ce lundi matin pour nos traditionnelles conversations. Alors Daniel, ce lundi est un jour crucial dans ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la guerre entre Israël et le Hamas. Donald Trump va rencontrer Benjamin Netanyahou. Il va tenter de lui faire accepter son plan de paix en 21 points. Pour commencer, Daniel, selon vous, le président américain peut-il convaincre le premier ministre israélien?
Ben oui, pourquoi pas? Israël est le premier bénéficiaire d'une fin des combats et d'une solution qui mettrait le Hamas hors jeu. Il y a aucun doute là-dessus. Israël dépense des ressources énormes à faire cette guerre, et surtout cette guerre de Gaza. On le voit bien, elle continue d'alimenter cette machine à diaboliser non seulement Israël mais tous les Juifs dans le monde, à coups de mensonges. Énormes, grossiers, mais qui fonctionnent, qui atteignent leur but, qui est isoler Israël. Et je pense que Bibi a dû sentir, quand il était devant une salle vide à l'Assemblée générale, que l'isolement était concret, était effectif. Donc oui, il a intérêt à trouver une solution. Et l'autre point positif, c'est qu'il y a un consensus mondial sur le fait qu'il faut se débarrasser du Hamas. Le désarmer, le faire quitter Gaza, et surtout qu'il fasse plus partie des négociations sur la question palestinienne ou sur l'équilibre du Moyen-Orient. Il faut l'éliminer. Tout le monde est d'accord là-dessus. Israël, évidemment, en attaquant le quartier général à Doha, a coupé les ponts en disant on ne veut même plus parler au Hamas parce que ce n'est pas une partie digne avec laquelle on peut négocier. Et d'autre part, le Qatar n'est pas un intermédiaire neutre. Mais les Américains l'ont compris aussi, puisqu'ils ont laissé Israël rompre le cessez-le-feu qui avait été obtenu la veille de l'intronisation de Trump, le 19 janvier. Israël l'a rompu le 2 mars et les Américains ont été derrière Israël dans cette rupture. Et puis on voit que même Macron, dans son initiative qui lui a valu des critiques acerbes de la part de toute la communauté juive mondiale, a été quand même très clair sur le fait que le Hamas devait disparaître de la circulation. Donc, au fond, tout le monde est d'accord. Et donc, pourquoi pas?
Alors justement, hein, vous dites que tout le monde est d'accord. Alors, Daniel, où sont les obstacles?
Le obstacle, c'est le Hamas. Le Hamas depuis le Hamas et aussi les pays arabes. Le Hamas parce que ça fait 2 ans qu'il résiste à Israël, vaincu, affaibli, il est toujours là et plus présent qu'on ne le croit. Hein. Il continue à gérer des portions importantes, d'où les opérations militaires autour de Gaza City. Et il peut vouloir résister à tout groupe, y compris composé de pays arabes, qui tenterait de le désarmer. Parce qu'il faut pas oublier que pour le Hamas, les pays arabes qui viendraient, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, la Jordanie, sont pour le Hamas des ennemis au même rang que les Occidentaux, et évidemment qu'Israël. Donc, ils peuvent vouloir résister. Ça, donc, l'obstacle principal, il peut venir du Hamas. Le deuxième obstacle vient des pays arabes qui ne veulent plus voir le Hamas, se satisfont de voir Israël faire le sale boulot. Ça leur permet de critiquer Israël tout en ne rompant pas avec Israël. Il n'y a eu aucune rupture, ni des relations diplomatiques de ce qu'on fait la fête, ni des partenaires des accords d'Abraham. Ça, c'est à relever. Mais est-ce qu'ils sont prêts à aller plus loin? Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager? Ce qui est très intéressant, c'est cette réunion qui a eu lieu à Doha après l'attaque d'Israël le 15 septembre. Tous les pays arabes et musulmans se sont réunis. Et il y a eu l'idée d'un OTAN du Moyen-Orient. Mais un OTAN du Moyen-Orient, ça veut dire que les Américains sont là avec un article 5. C'est-à-dire que si l'OTAN en Europe fonctionne, c'est parce que les Américains sont dans l'OTAN. Donc ce que réclament au fond les pays arabes, c'est une garantie de sécurité américaine très forte du type article 5 de l'OTAN européen. Et ça, pour l'instant, on voit bien que Trump, qui est en train de se désengager de l'OTAN européen, ne va pas recréer un OTAN au Moyen-Orient pour s'engager à nouveau, d'autant que sa base MAGA est très puissante, très, très, très active et l'incite à se dégager de tout, y compris du Moyen-Orient. Donc ma conclusion, c'est que cette discussion qui a lieu tout à l'heure entre Trump et Bibi, c'est quel est le type d'engagement que les Arabes pourront proposer pour désarmer le Hamas et quel type de garantie les Américains peuvent donner à ces pays arabes pour les rassurer. Et alors bon, pour l'instant, on est encore loin de tout ça jusqu'ici. Peut-être que, il y aura une percée, aujourd'hui et demain.
Quelle est la suite, justement, Daniel?
Écoutez, pour l'instant, Israël n'a pas d'autre solution que de poursuivre sa pression militaire, parce que c'est celle qui fait avancer les choses. C'est la seule raison. Alors, on dit que le Hamas a accepté le plan en 21 points. Ça ne peut être que parce qu'il est acculé à le faire par cette pression militaire, mais on sait aussi que personne ne peut croire le Hamas, quoi qu'il dise. C'est un mensonge permanent. Donc seule la poursuite de la pression militaire sur le Hamas peut jouer un rôle, la suite aussi, c'est une négociation qui doit se poursuivre entre Israël et les États-Unis pour dire à Trump, attention, c'est pas sur moi qu'il faut mettre la pression, c'est petit un sur le Hamas et surtout sur ceux qui soutiennent le Hamas. Et en rappelant que la Turquie et le Qatar, qui sont deux amis des États-Unis, sont les principaux soutiens et financiers du Hamas. Donc là, chercher l'erreur, hein. Donc il faut mettre aussi Trump devant ses responsabilités. Quant aux alliés arabes et en particulier l'Arabie saoudite, elle doit trouver l'engagement pour prendre ses risques. Et donc voilà, la question, elle est encore une fois dans les mains de Trump. Est-ce que Trump aura une vision suffisante à long terme pour accepter ce type d'engagement? On sait qu'il est plutôt focalisé sur les problèmes intérieurs américains. La mort de Charles Kirk l'a focalisé à nouveau sur le mouvement MAGA. Dans un an, c'est les élections à mi-mandat. L'objectif de Trump, c'est les Américains qui sont ses électeurs. Et donc la question est, Trump trouvera-t-il la force d'aller dans le sens de ce que Israël a besoin pour passer la main à d'autres, ce qu'il n'est pas prêt à faire sans des engagements très forts.
Pour conclure, Daniel, il nous reste 2 petites minutes. On a vu, hein, lors de ce discours de Benjamin Netanyahou, énormément de délégations quitter la salle. Israël sort-il perdant de cette semaine autour de la reconnaissance de l'État de Palestine?
Je pense que je crois que c'était un non-événement en réalité, que la sortie de tous les délégués aurait eu lieu de toute façon, parce que ça fait un an que la vague de diabolisation d'Israël s'est amplifiée. En fait, la rupture, ça a été le 2 mars 2025, quand Israël a compris que le cessez-le-feu négocié le 19 janvier conduisait à laisser le Hamas à Gaza, ce que personne ne veut, en tout cas Israël ne le veut pas et tous les autres disent qu'ils ne le veulent pas non plus, et donc il a réinstallé la guerre à Gaza et ça a alimenté une campagne qui s'est étendue c'est effrayant ce qui se passe, et on se demande où ça a arrêté, et c'est ça qui justifie et qui explique l'isolement d'Israël. L'épisode de la reconnaissance de la Palestine par un certain nombre de pays européens finalement est tombé dans l'eau. Le jour où Trump a dit, moi j'ai mon plan à moi, mon plan à 21 mai, à 21, pardon, à 21 points, et que Macron a dit, de toute façon, la balle, c'est dans les mains de Trump, qui est le seul qui a le pouvoir d'imposer un plan de paix. Donc, je crois que le vrai épisode, c'est aujourd'hui, c'est ce lundi. Il n'est pas sûr qu'on ait des résultats immédiats. Il y aura peut-être encore d'autres discussions. Et parce que c'est pas entre les deux que ça joue aussi beaucoup avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et les autres protagonistes. Non, je crois que malheureusement pour Israël, il est isolé, qu'il va se, Israël n'a pas d'autre choix que se raidir encore plus parce que le poids de la guerre, c'est lui qui le porte. Et personne ne veut l'en soulager. Donc, c'est ça l'analyse qui est faite et qui est malheureusement triste, mais incontournable.
Daniel Aber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
Bien sûr. Au revoir.